Et voici les titres de votre journal.
Un match sous haute surveillance, c'est celui qui opposera ce soir l'AC à Au Havre. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été mises en place pour éviter les incidents qui ont émaillé la dernière rencontre à Ajaccio entre les deux clubs. Pour en parler, un invité dans ce journal, Xavier Delarue, coordonnateur des services de sécurité en Corse. De la justice également avec le procès de Fethi Gadgadi, accusé d'avoir porté un coup de couteau au visage d'un jeune Ajaccien. C'était en septembre dernier. Il a été renvoyé ce matin par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 23 novembre prochain. Et puis notre grand angle du jour est consacré au comportement à risque chez les adolescents. Une conférence était organisée hier à Ajaccio et vous allez voir, les témoignages sont édifiants.
Le journal de la mi-journée vous est présenté par Caroline Philippe. Bonjour.
Bonjour. Et l'on débute cette grande édition avec un match classé à risque ce soir du côté du stade François Coty. L'ACA reçoit le Havre pour le compte de la 11e journée de Ligue 2. C'est la première fois que les deux clubs se retrouvent depuis le play-off remporté par l'ACA, mais marqué par des incidents qui avaient été durement sanctionnés d'ailleurs par la Ligue de football professionnel. Et pour éviter tout débordement, ce soir, un dispositif spécial est prévu autour du stade. Nous verrons cela dans un instant avec le coordonnateur pour la sécurité en Corse, Xavier Delarue. Quant aux supporters du Havre, eh bien, ils ne devraient pas faire le déplacement. Le bus des joueurs et des dirigeants havrais sera sous bonne escorte dès son départ de l'aéroport d'Ajaccio. Du côté de l'ACA, l'appel au calme et à la raison est lancé en direction des supporters. Le club qui mobilise ce soir 70 stadiers, soit une quinzaine de plus que d'habitude. Il faut dire que le club est sous le coup du retrait d'un point en cas de nouveau dérapage. Alors avant ce match, le président Léon Loudjani a notamment rencontré les supporters de l'Ours Iribelli, seul groupe présent au stade. On l'écoute.
Oui, je les ai rencontrés, je les ai vus, et puis ils nous ont envoyé un courrier quant au déroulement de leur présence au stade. Donc bon, ils sont bien conscients des risques encourus, et je pense qu'ils ont été réceptifs. Ils sont bien conscients que nous avons été privés de quelque chose qui aurait pu être l'apogée d'une saison bien remplie. J'appelle les supporters à venir d'abord nombreux, mais en même temps à faire preuve de la plus grande vigilance quant à ce qui pourrait être fait et dit, parce que nous sommes bien évidemment sous le feu des projecteurs et que les commissions de discipline, les dernières décision d'ailleurs en atteste. Il y a une jurisprudence spéciale pour l'AC Ajaccio et pour la Corse. Nous démontrerons que l'AC Ajaccio, quand elle a gagné au mois de mai contre le Havre, elle a gagné sur le terrain, que c'est pas le fameux contexte qui a été mis en avant qui a fait que notre victoire a pu être possible.
Et pour évoquer les mesures de sécurité mises en place ce soir par les forces de l'ordre, un invité dans ce journal, Xavier Delarue, coordonnateur pour la sécurité en Corse. Bonjour.
Bonjour madame.
Quel est donc le dispositif mis en place ce soir autour du stade, puisque on l'imagine bien et on l'a dit, dispositif exceptionnel par rapport au match d'habitude?
Alors tout d'abord, je voudrais, et vous avez interviewé le président Loudjani à l'instant, saluer le sérieux et la détermination et le bon esprit des deux clubs. Honnêtement, depuis quelques jours maintenant, nous préparons cette rencontre dans le meilleur esprit, que ce soit avec le président Loudjani qui est vraiment engagé avec le club d'ACA pour que ça se passe au mieux. Vous l'avez dit, 70 stadiers, toute une organisation et des messages qui sont très positifs. Et d'un autre côté aussi, le nouveau directeur général du Havre qui avec lequel on a très bien préparé les choses. Alors on met effectivement un dispositif qui est un dispositif qui doit nous permettre d'assurer à la fois aux joueurs du Havre et à tous les spectateurs qui ne doivent pas avoir peur de se rendre au stade parce que tout se passera bien, un dispositif justement pour qu'il n'y ait absolument aucun débordement. Donc ce sera un dispositif important. On a plus de 200 policiers et gendarmes qui a commencé à être mis en place, puisque dès l'arrivée de l'équipe du Havre tout à l'heure à l'aéroport, nous avons un dispositif qui assure une sécurité constante. Et puis bien sûr autour du stade, puisque là nous déploierons les moyens nécessaires, mais vraiment dans l'état d'esprit où sont à la fois les deux clubs et puis je pense avec aussi les rappels et les dispositions prises de son côté par M. le procureur de la République, nous avons tous les ingrédients pour que tout se passe très bien ce soir.
Dans le stade, on va le rappeler, c'est de la responsabilité du club. Vous, c'est exactement uniquement autour de l'enceinte.
Tout à fait. Les forces de police et de gendarmerie sont appelées à intervenir le cas échéant dans le stade sur réquisition, c'est-à-dire sur appel, sur demande du président du club.
Xavier Delarue, est-ce qu'un huis clos aurait pu être envisagé? La préfecture, est-ce qu'elle a le pouvoir de demander ce genre de choses?
Oui, tout à fait, mais là, en l'occurrence, ça se justifie absolument pas. Je pense qu'on a vraiment toutes les mesures prises et le sérieux, encore une fois, du club qui permet de dire qu'on n'a absolument pas à faire un huis clos qui serait porté atteinte au club sans raison. Puisque je le dis encore une fois, si on a eu des événements qui se sont produits au mois de mai l'année dernière, c'est vraiment grave, mais qui sont restés isolés, et on n'est pas du tout dans une telle configuration cette fois-ci. Nous avons par contre, à la demande des deux clubs, je le précise, ils ont pris un arrêté d'interdiction de présence de supporters du Havre afin d'éviter tout risque pour ces supporters, puisqu'il y avait eu quelques messages envoyés sur les réseaux sociaux qui nous avaient semblé un peu inquiétants de ce côté-là. Et pour éviter tout incident, à la demande encore une fois des deux clubs, nous avons pris un arrêté d'interdiction, voilà, de ce côté-là. Mais il est absolument hors de question à aucun moment nous n'avons envisagé de jouer ce match à huis clos. Il y a absolument, encore une fois, je pense que les spectateurs peuvent venir nombreux et tranquilles. Et en famille, ce match a toutes les conditions de sécurité pour très bien se dérouler.
Autre chose, Xavier Delarue, puisqu'on parle de sécurité, tout autre chose par rapport à ce match. Derniers événements qui ont touché le domaine de la sécurité, c'était la découverte à Ajaccio puis à Bastia hier, dans les bureaux de poste principaux, de deux enveloppes contenant une poudre blanche. Au final, tout danger a été écarté. Mais il était donc de votre devoir, on l'imagine, de la part des services de sécurité, de procéder à toutes les vérifications, même si c'est l'œuvre de plaisantins.
Effectivement, et je dirais malheureusement, parce que c'est de la plaisanterie qui fait rire personne quand vous avez effectivement des employés de la poste qui sont bloqués 7 ou 8 heures, comme ça a été le cas à Ajaccio, puisqu'il a fallu in fine aller jusqu'à faire intervenir des spécialistes marins-pompiers de Marseille. Ça fait vraiment rire personne. Maintenant, on peut pas, sur ce genre de choses, prendre le moins de risques. Donc il y a une procédure nationale qui doit être appliquée, qui doit être scrupuleusement appliquée, parce que si jamais on avait à la place du bicarbonate, de l'anthrax, en réalité, on ne nous pardonnerait pas d'avoir été léger. Donc évidemment, j'appelle à ce que les mauvais plaisants qui sont derrière ne rééditent pas ces bêtises. La justice d'ailleurs en est saisie, parce que c'est grave. C'est totalement irresponsable, puisqu'encore une fois, on ne peut pas prendre le moindre risque sur ce genre de choses quand on se rappelle des événements qui ont eu lieu maintenant il y a longtemps, début des années 2000, sur les attaques à l'anthrax.
Xavier Delarue, merci.
Merci à vous, madame.
Je rappelle que vous êtes coordonnateur des services de sécurité dans l'île. Justice, à présent, le procès de Fethi Gadgadi a été renvoyé ce matin au 23 novembre par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Le prévenu est poursuivi pour avoir porté un coup de couteau au visage de Cyril Betty. C'était dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier, devant un camion de restauration rapide près de la gare d'Ajaccio. L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions et de tensions dans la cité impériale, et les avocats de Fethi Gadgadi ont estimé que le rapport d'expertise effectué sur leur client n'était pas fiable. Ils ont donc demandé ce matin un supplément d'information, requête acceptée par le tribunal. Maître Jean-François Casalt, avocat de Fethi Gadgadi.
Je trouve que l'expert psychiatre outrepasse sa mission, puisque en quelque sorte c'est un rapport de culpabilité. Mais l'expert psychiatre, il n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de ses patients, il a à se prononcer sur leur état psychiatrique. Là aussi, il va falloir revenir à une certaine impartialité qui, de mon point de vue, fait défaut dans ce dossier. C'est un dossier dans lequel on veut aller vite, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un maghrébin qui a déjà été condamné pour les mêmes faits. Il y a un jeune homme qui ne demandait rien à personne, qui a été blessé, il a une blessure importante. Il y a une émotion dans la population qui est une émotion légitime et je la comprends. Mais ce n'est pas parce que c'est un maghrébin et qu'il a déjà été condamné qu'il faut le juger moins bien qu'un autre homme. Pourquoi ? On jugerait les gens plus ou moins bien selon leur origine, selon leur appartenance à une communauté ou une ethnie. Non, ça, je me le refuse absolument.
Et de leur côté, les avocats de la Défense se sont opposés à ce renvoi. Maître Vignier Orsette, il nous explique pourquoi.
Nous sommes opposés à ce renvoi parce que nous considérions effectivement que l'expertise psychiatrique qui avait été ordonnée par le parquet dans ce dossier, dans le cas de la garde à vue du prévenu, était suffisante pour renseigner le tribunal sur sa personnalité. L'expert était clair sur les points de sa mission qui lui ont été fixés, c'est-à-dire que le prévenu est de façon certaine responsable pénalement de ses actes, qu'il est accessible à une sanction pénale, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitions que ce dossier soit jugé aujourd'hui. La justice a considéré donc qu'elle devait s'entourer d'un maximum d'éléments objectifs avant de le juger. Nous en prenons acte et nous reviendrons le 23 novembre 2018 à 8h30 devant ce même tribunal pour que M. Gadgadi soit effectivement jugé par ce tribunal.
Un reportage signé Marion Galland. 2 ans de prison, dont un avec sursis, c'est la peine prononcée contre Patrick Vernet, directeur sportif de l'ACA, par le tribunal correctionnel d'Ajaccio. Il était poursuivi avec 6 autres personnes dans le cadre d'une affaire de racket dans le milieu du football. Une affaire d'extorsion de fonds avec violence, menaces avec armes. Parmi les victimes figuraient des entrepreneurs du BTP du continent et un agent de joueur. On passe à la politique. À présent, Laurent Marcangeli, très probable candidat à sa succession à la Maison Carrée. Le maire d'Ajaccio était hier soir l'invité de Bintiminoud, l'émission politique d'RCFM. Après avoir longuement défendu son bilan, il a clairement manifesté sa volonté de solliciter un deuxième mandat avec sur sa liste des gens de tous bords et pourquoi pas, a-t-il dit, des nationalistes. Il se dit prêt également, bien sûr, à accueillir des candidats, les Républicains, répondant à Marcel Franchitch, fraîchement reconduit à la tête de la Fédération LR de Corse du Sud. Mais Laurent Marcangeli prévient, c'est lui et lui seul qui décidera.
Il y aura très simplement des propositions qui seront faites. Mais attention, que les choses soient bien claires. En 2014 et en 2015, la liste elle a été écrite par une seule main, la mienne. Ça sera pareil. Si je suis encore candidat, ce n'est pas les partis politiques qui décideront de la composition de la liste.
Donc vous n'entendez pas la coécrire avec Marcel Franchitch. Mais comment vivriez-vous une liste concurrente LR ?
Toujours sereinement. Moi, vous savez, je m'adapte. Et les Ajacciennes et les Ajacciens trancheraient alors. Et je le regretterai parce que je garde une part de sympathie pour ce mouvement, même si j'ai décidé de le quitter. Mais je m'adapterai parce que je considère que la compétition fait partie de la vie. J'espère en tout cas que ce sera vraiment pour des bonnes raisons et pas pour les mauvaises, à savoir l'intérêt d'Ajaccio, l'intérêt du projet porté et non pas des intérêts personnels.
Direction l'extrême sud à présent et son réseau routier. On s'intéresse à la traversée de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, véritable parcours du combattant durant la saison estivale avec des embouteillages sur plusieurs kilomètres. Il faut dire que durant les mois d'été, jusqu'à 30 000 véhicules peuvent l'emprunter chaque jour. Résultat, les riverains sont excédés. Ils attendent la création d'une déviation. Le projet existe. Le tracé a été adopté. L'enquête publique a même été réalisée. Et à présent, Jean-François Moudzi, porte-parole d'un collectif de riverains, demande des garanties sur l'avenir de cette déviation.
Suite aux récentes déclarations de la présidente de l'Office des Transports, Madame Borromei, qui, avec une question qui lui a été posée à l'Assemblée territoriale, a répondu de manière plutôt évasive sur l'opportunité réelle de faire une déviation et sur la réelle détermination politique de l'actuelle majorité de mener à bien ce projet. Est-ce que vous avez la volonté ferme de faire le projet? Quand ce projet se fera-t-il et sera-t-il financé? Sachant que nous avons ce couperet qui va tomber, on le sait, de l'échéance par rapport au financement du PUI, et nous sommes inquiets par rapport à ça. Parce que si la déviation ne se fait pas, elle se fera d'autant plus difficilement dans le futur et on se dirige vers un village qui se meurt. Au-delà des enjeux évidemment de circulation que cela pose.
Réponse de Vanina Borromei, la présidente de l'Office des Transports. Cette déviation se fera, elle est au programme. Et elle se dit d'ailleurs surprise des inquiétudes affichées par certains riverains.
Une volonté affichée, une procédure administrative en cours et je suis très surprise des différentes inquiétudes puisque tout le monde connaît les délais, les contraintes administratives de ce type de projet structurant. Compte tenu du temps pour les réservations foncières, l'enquête publique et l'obtention des financements qui va dépendre du poste PUI, de nos négociations avec l'État, je pense que nous sommes plutôt sur un calendrier à moyen terme d'environ 24 mois pour peut-être espérer que les travaux débutent quand nous aurons les financements. En tout cas, de notre côté, toutes les procédures administratives seront prêtes pour pouvoir débuter les travaux plus tôt lorsque le financement sera obtenu.
Et le coût de cette déviation de 4 200 km est estimé à 30 millions d'euros. Reportage signé José Tafagne. Hasard du calendrier, après les inondations dans l'Aude et en Haute-Corse, le Conseil départemental de la Sécurité civile de Corse du Sud s'est réuni hier après-midi à la préfecture de Corse, à Ajaccio, pour parler du risque pluie-inondation. Durant la réunion, l'accent a été mis sur un problème crucial qui a été soulevé d'ailleurs par de nombreux sinistrés, l'alerte. Comment prévoir, comment prévenir les populations en cas de danger imminent? Une tâche qui est loin d'être facile puisque la science n'est pas exacte et que ces phénomènes méditerranéens sont quasiment imprévisibles de manière précise. Et pour les maires des petites communes, le risque est donc compliqué à gérer. C'est ce que nous explique Christian Lecq, le maire de Veyre, au micro de Marion Galland.
La difficulté qu'on a, c'est l'alerte. Si à 3h du matin, il y a une inondation dans la vallée de la Gravonne sur le territoire de la commune de Vire, même si mon portable reste allumé toute la nuit, appeler les gens, signifier aux gens cette alerte, l'importance maximum, ça pose d'énormes problèmes. Et actuellement, on n'est pas très très outillé là-dessus. Compte tenu des charges qui nous sont transférées et des moyens qui nous sont alloués, on a toujours d'énormes difficultés, d'autant plus que malheureusement, la situation conjoncturelle de l'État qui se désengage surtout. Donc c'est vrai qu'il nous faut à nous, avec tous les moyens qu'on a au niveau communal, sans faire appel aux services de l'État, essayer d'informer, de mobiliser pour que chaque habitant prenne conscience des dangers qu'il court et qu'il soit informé et qu'il soit capable de faire appel rapidement à tous les services de secours et aux services municipaux, même s'ils sont très très peu importants, leur faire appel pour en cas d'aide et mettre en place des mesures qui seraient compensatoires à ce genre d'événement.
Et d'environnement, on en parle également aujourd'hui dans notre chronique Marée Latine, avec les suites de la collision au large du Cap Corse entre deux navires qui ont entraîné une pollution aux hydrocarbures. Si notre île a été épargnée, ce n'est pas le cas des côtes varoises. Des galettes de fioul ont été retrouvées sur des plages de Ramatuel et Pamplonne et de nombreux sites classés sont donc touchés, Jérôme Sousine.
Dès mardi dernier, soit 10 jours après la collision des deux navires au large de Cap Corse, des résidus d'hydrocarbures se sont retrouvés à 180 km de là. Les plages de Saint-Tropez, Ramatuel, les différents parcs du Var sont atteints. Sur place, c'est la consternation. Les quantités ne sont certes pas colossales, mais les plages sont souillées, les rochers noircis durablement. C'est avant tout un impact environnemental. L'activité touristique en cette période étant réduite, l'effet sur l'économie est réduit pour l'instant. Dans le Var, notamment à Ramatuel, une commune de 2000 habitants, on se retrousse les manches. Le maire a déposé plainte, Roland Bruno.
J'ai confirmé, après analyse du fioul, que ça provenait de cet accident. On est en plein dans le courant Ligure, donc... Dès qu'on est dans cette situation, tous les éléments que transporte la mer aboutissent sur la presqu'île. Nous avons déposé plainte auprès de la gendarmerie pour la pollution d'un espace naturel remarquable, d'un site classé, d'une zone Natura 2000. Et il n'y a pas que Ramatuel, c'est toute la presqu'île de Saint-Tropez. Sainte-Maxime également, également la commune voisine de la Croix-Valmer et le parc national de Porquerolles. Et nous sommes commune du parc national de Porquerolles et l'île de Porquerolles est touchée également. Nous sommes exposés, comme vous, à ce type de pollution. D'ailleurs, on appelle Ramatuel la petite Corse, parce qu'il y a des espèces qu'on ne trouve qu'à Ramatuel et en Corse.
Ramatuel, cette petite Corse et ses espèces endémiques, se serait bien passé de récupérer ce qui n'a pas souillé pour l'instant les côtes de la grande sœur insulaire. Sauf que cela n'est pas dit. On estime en effet que ces courants ligures tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On ne connaît pas en fait la quantité réelle de fioul encore présente en mer. Encore un exemple, la Méditerranée est fragile plus que jamais.
RCFM, toute l'info.
Et notre grand angle est consacré aujourd'hui au comportement à risque chez les ados. Une conférence était organisée hier par le Centre de planification et d'éducation familiale de Corse, c'était à Ajaccio. Le but, mettre des mots sur les comportements à risque et leurs causes. Comportements parfois nouveaux et qui inquiètent les responsables de la santé en Corse. Un grand angle signé Olivier Castel.
Que ce soit dans les boîtes de nuit, dans les avant-boîtes, la drogue, ça lâche des sachets de cocaïne. Ou... Si. Pour se débarrasser, s'il y a une descente de police. Et dans les toilettes, de la drogue. On sort des boîtes, on voit des jeunes en train d'avoir des relations sexuelles. Et des filles qui s'envoient nues à des garçons, qui les garçons font des captures d'écran et les montrent à leurs amis, qui les montrent à leurs amis et ça tourne dans toute la ville.
Voici quelques exemples de comportements à risque observés chez les jeunes du côté d'Ayacho. Cette lycéenne parle de quelque chose de fréquent.
De voir ce genre de comportement, c'est devenu une habitude. Pas normal, mais voilà, c'est plus choquant.
À côté d'elle, ses collègues de classe en sciences et technologies de la santé et du social ne la contrediront pas. Tous sont venus assister à une conférence donnée par David Le Breton, sociologue et anthropologue de l'Université de Strasbourg. Ce dernier met en avant un chiffre de l'Institut National de Santé et de la Recherche Médicale. Un jeune sur cinq environ en France France ressent un mal-être et consomme alcool ou drogue en quantité importante, entre autres comportements à risque. Un comportement en hausse, c'est l'alcoolisation débridée chez les jeunes femmes, parfois dès le collège.
Ça, c'est tout à fait nouveau, parce que l'alcoolisation, il y a encore une dizaine d'années, était plutôt un phénomène masculin. On rencontre de plus en plus de filles dont l'alcoolisation extrême, des garçons ou des filles, mais donc aussi des filles qui boivent pas du tout pour l'ivresse, mais qui boivent pour tomber en coma éthylique et ne plus être là, c'est-à-dire ne plus porter le poids de son mal-être.
Et une mode inquiétante qui a fait son apparition sur l'île, le beach drinking. Bianca Fadzi, médecin urgentiste et conseillère exécutive en charge du social et de la santé.
Boire le plus vite possible et le plus possible. C'était une mode anglo-saxonne à la base. Hein. On n'est pas épargné par ce genre de phénomène. Donc ils se réunissent, y compris chez eux. Ils achètent de l'alcool. Et on a un moment qui suit aux urgences, on voit arriver des ados dans des états d'alcoolisation aiguë.
Les politiques tablent avant tout sur la prévention. Les infirmières des centres d'éducation et de planification familiale voient d'ailleurs de plus en plus de monde. Les affections sexuellement transmissibles font partie de leur cible, elles aussi en hausse, en même temps que baisse l'utilisation des préservatifs. Noël Massogne, infirmière au CPEF d'Ayatch.
On en est à peu près à 500 patientes depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'on a le temps de faire justement, c'est pouvoir expliquer justement ces moyens de contraception, pouvoir prendre le temps d'accompagner les patientes dans leur dimension biopsychosociale. Elle vient en première intention pour demander une pilule, mais il peut y avoir d'autres problèmes qui émergent ensuite dans l'entretien. On essaie de les sensibiliser tout en les impliquant, en leur donnant un rôle dans cette prévention.
Des comportements à risque, nouveaux ou anciens, contre lesquels tous ces acteurs appellent les parents à se montrer vigilants.
Et pour évoquer justement ces comportements, le docteur Nicole Carlotti, directrice de la prévention sanitaire et de la prévention de la santé à la collectivité de Corse, était notre invitée ce matin. Elle répondait aux questions d'Olivier Castel.
Bonjour docteur Nicole Carlotti.
Bonjour.
Il y a eu comme chaque année d'ailleurs des rencontres autour de la santé en Corse. Là, on parlait des conduites à risque chez les adolescents. Le thème, c'était nouveaux adolescents, nouveaux risques. Est-ce qu'il y a des nouveaux adolescents, des nouveaux types de comportements en Corse ?
On n'est pas face à de nouveaux adolescents, on est face à des adolescents, mais qui nous posent question. Parce que nous, en tant que vieux, on dira, on a toujours l'impression qu'on est en décalage par rapport à eux. Et quelquefois, on se demande, est-ce que leurs conduites sont finalement normales ? Ou quelque part, est-ce qu'il faut qu'on s'en inquiète et qu'on prenne les mesures qu'on peut prendre pour les aider et les accompagner ?
Alors, je crois que vous observez depuis quelques temps maintenant un phénomène qui est récurrent et qui arrive de plus en plus tôt en termes d'âge chez les adolescents, c'est l'alcoolisation à outrance.
Oui, on reçoit beaucoup dans nos bureaux des adolescents qui ont bu jusqu'à oublier complètement ce qu'ils ont fait et qui ne se rappellent plus ce qu'ils ont pu vivre ou subir. Et ça, quelque part, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on n'avait pas avant dans nos services.
Comment ça se manifeste en gros, s'ils vont dans les bars ensemble
ça n'a pas de, il n'y a pas d'endroit particulier. Ça peut être les bars, mais ça peut être même à la maison. Ils achètent de l'alcool et ils boivent. Alors leur façon de boire, c'est très vite, très rapidement, pour arriver le plus vite possible au coma. Et du coup, quand ils viennent, ils ne se rappellent plus du tout ce qui s'est passé dans la soirée. Et souvent, donc, il y a une peur, soit d'avoir eu une relation sexuelle non protégée, avec tout ce que ça peut entraîner par la suite.
D'ailleurs, ça fait partie, ça aussi, les affections sexuellement transmissibles, ça fait partie des choses qui sont en recrudescence, je crois, en Corse.
Oui, il semble qu'il y a quand même une augmentation des infections sexuellement transmissibles, notamment sur certaines maladies comme les chlamydiers.
C'est un phénomène qu'on peut rattacher à quoi ?
Au fait que les jeunes ne se protègent plus. Ils savent très bien qu'ils doivent mettre des préservatifs, mais ils ne les utilisent pas. Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de risque, que ça n'existe plus. Maintenant, on dit que le sida, ça se soigne, et donc il n'y a plus cette peur primaire qu'il y a pu avoir à un moment donné.
Est-ce qu'il y a une influence extérieure chez ces jeunes, que ce soit pour les comportements sexuels à risque ou pour l'alcoolisation, est-ce qu'il y a des influences extérieures qui peuvent expliquer ce comportement?
Oui, les sites pornographiques certainement, parce que c'est vrai que ça donne une image de la sexualité qui n'est pas une image de la réalité en fait. Hein. Les réseaux sociaux aussi, parce que ça les met dans des positions un petit peu de concurrence. Mais il y a aussi une banalisation par rapport aux infections sexuellement transmissibles.
Comment est-ce que vous intervenez, vous, quand vous recevez des jeunes dans vos bureaux ou quand vous allez à leur rencontre? Vous mettez l'accent sur quoi?
On met surtout l'accent sur le fait qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux, qu'ils prennent soin de leur corps, qu'ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils mettent en danger, ce qu'ils mettent en jeu, qu'ils réfléchissent un petit peu sur pourquoi ils font les choses, qu'est-ce qui les amène à faire certaines choses. Plutôt que de leur dire c'est pas bien, il faut pas faire ça, parce que ça ils le savent très bien. Ils savent très bien qu'il faut qu'ils mettent un préservatif, c'est quelque chose de connu, mais pourquoi ils ne le mettent pas? Voilà, réfléchir un petit peu sur leur positionnement par rapport à ça.
Alors il y a un sociologue qui est intervenu durant cette journée au Palais des Congrès à Ajaccio qui s'appelle David Le Breton, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Lui parle carrément d'un phénomène d'effacement en fait de l'être, carrément. Quelle réponse on peut apporter à ce phénomène où on veut s'oublier en fait?
Justement, on va se recentrer sur qu'est-ce que je suis, comment je peux me réaliser. D'ailleurs, il disait que des techniques qui pouvaient être intéressantes, c'était le théâtre, la marche, la danse, parce que tout ce qui va amener l'adolescent à se réaliser et à prendre conscience de ce qu'il est, ça va l'aider justement à vouloir être au monde et pas se mettre dans cet état où on a envie de disparaître parce que la souffrance est trop importante.
Qu'est-ce qui est important en Corse pour arriver à des résultats positifs? La cellule familiale, il faut travailler sur quoi?
Bien sûr, la cellule familiale, c'est important, parce que c'est vrai que c'est les fondements de tout adolescent. Après, il faut travailler surtout sur le lien social. Je crois que là aussi, M. Le Breton a beaucoup insisté là-dessus, sur la disparition de ce lien qui existait, aussi bien le lien familial que le lien sociétal, que le rattachement à ses racines. Tout ce qui va travailler sur le lien, c'est quelque chose qui peut améliorer la situation en Corse. Oui.
Il y a un chiffre qui existe sur le plan national et qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe, c'est un jeune sur cinq qui s'adonnerait à des comportements à risque. Est-ce que vous pensez qu'on peut le rapporter à la Corse de la même manière?
Il n'y a pas de raison qu'on ne le rapporte pas à la Corse, puisque de toute façon, on sait qu'en Corse, il y a un taux de précarité qui est très très important, un taux de déscolarisation qui est très important. Donc il n'y a pas de raison que nos adolescents aient beaucoup mieux qu'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on soit vraiment inférieur ou supérieur, parce qu'on est sur une île.
Merci beaucoup, docteur Carlotti, d'avoir été notre invité ce matin.
Merci à vous.
Voilà, une interview, un grand angle à retrouver en podcast et sur notre site bleu-rcfm.coursique. Le deuxième festival du film politique de Porto-Vé, qui est du 25 au 28 octobre prochain au Centre culturel. Il propose un panorama international du cinéma engagé. Jérôme Paoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Carl Zéro, le fondateur de cette manifestation. Alors, quel est le thème choisi cette année?
Écoutez, le thème cette année, c'est de présenter des films internationaux, avec notamment un film sur... Attendez des petites secondes, parce que j'ai un petit... Oui, pardon. Avec Les Filles du Soleil, Décapitalisation, un film sur Silvio Berlusconi, Un peuple et son roi, et puis une exclusivité mondiale cette année, on va diffuser un film qui s'appelle Course, qui est l'histoire du sous-marin russe qui a coulé, et Europa Corp nous a donné l'exclusivité mondiale pour pour cette diffusion.
Alors il y a encore du beau monde cette année, issu de la politique, du cinéma, des médias, des avocats, dans le jury et dans les invités d'honneur.
Oui, alors on a comme présidente du jury Sylvie Piala cette année, qui est une productrice de cinéma et la femme de Maurice Piala. On a Michel Fil, Patrick Poivre d'Arvor, Franck Louvrier, Alexis Corbière, donc ça c'est pour la partie jury. Et puis on a voulu élargir cette année en invitant des personnalités. Donc on a la chance d'avoir les enfants de Simone Veil qui vont venir au festival. Nous allons diffuser un film sur Simone Veil qu'ils ont sélectionné. Nous avons beaucoup d'invités. On a Bruno Gassiot qui vient. On a Anne Niva qui va présenter un film sur la Russie. On a Joe Star. Donc beaucoup de personnalités. Bon, il y a presque une centaine de personnalités cette année qui viennent nous rejoindre pour que ce festival soit une vraie fête. Et puis... on a prévu notamment le dimanche matin une signature sur l'esplanade du centre culturel avec toutes ces personnalités qui pourront dédicacer des livres pour que la population soit aussi puisse les rencontrer. On fait un festival qui est vraiment grand public et ouvert à tous.
Alors moi j'ai lu un petit mot de Carl Zéro qui organise donc ce festival avec vous, qui parle de l'art et du mensonge en politique. Le politique peut être un très bon acteur, c'est peut-être ce que vous avez voulu passer également dans cette édition.
Oui. Oui, parce que en teaser, on a fait un petit sondage avec OpinionWay, qui est partenaire de notre opération. C'est les hommes politiques sont-ils des acteurs? Et 74% des Français ont d'ailleurs désigné Emmanuel Macron comme le meilleur acteur en politique.
Peut-être doublé par Jean-Luc Mélenchon actuellement. Hein. On pourrait peut-être poser la question à Alexis Corbière lors de sa venue.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on a une actualité, on est rattrapé par l'actualité, et que c'est vrai que M. Mélenchon fait pas mal le faux. Voilà. Mais il y a toujours un aspect, voilà, on est en la politique, c'est de la communication, donc il y a évidemment une notion de mise en scène dans les prestations des hommes politiques, c'est une évidence aujourd'hui.
Jérôme Paoli, merci. On va rappeler le deuxième festival du film politique de Porto Vecchio, c'est du 25 au 28 octobre. Merci à vous.
Merci à vous.
Appel des titres de l'actualité avec les retrouvailles entre l'ACA et le Havre ce soir en Ligue 2. C'est la première fois que les deux clubs se retrouvent depuis le play-off remporté par l'ACA. Et ce fameux week-end émaillé d'incidents, 200 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir autour du stade. À l'intérieur, l'ACA a sollicité 70 stasiers pour une quinzaine de plus qu'à l'accoutumée. Les dirigeants de l'ACA qui ont demandé aux supporters de ne pas donner le bâton pour se faire battre. Et puis du côté des Havrais, le Havre se déplace sous protection policière depuis son arrivée ce matin à Ajaccio. Un arrêté d'interdiction des supporters havrais a été pris également. Un match qui sera bien sûr retransmis ce soir sur RCFM. Et puis le procès de Fethi Gadgadi a été renvoyé ce matin par le tribunal correctionnel d'Ajaccio au 23 septembre prochain. Il est accusé d'avoir porté un coup de couteau au visage de Cyril Betty. C'était en septembre dernier, près de la gare d'Ajaccio. L'affaire avait suscité beaucoup d'émotions. Ses avocats ont estimé que le rapport d'expertise effectué sur leur client n'était pas fiable. Ils ont demandé un supplément d'information. We'll be right back.